Un bon boulot, témoignages et discussions sur les grandeurs et les misères du travail. Selon Christophe Dejour, médecin, le travail est une promesse d'accomplissement de soi, souvent non tenue. Comment faire de son travail à la fois un plaisir, une source de reconnaissance et une source de revenus? Salariés, entrepreneurs, artistes, les parcours sont multiples et les trajectoires singulières, hybrides, mais toujours riches d'enseignements. Nous parlons métier, épanouissement au travail, nous cherchons aussi à comprendre comment un bon boulot pourrait devenir un sale boulot. Favoriser les circuits courts, réduire les intermédiaires, grouper les achats, impliquer les habitants des quartiers prioritaires de Brest, créer un collectif et offrir à tous une nourriture saine à des prix abordables. C'est la mission que s'est donnée l'association VRAC 29. C'est aussi l'œuvre de Fred, travailleur social, qui, dans le même temps, s'est fabriqué un travail à sa mesure. Il nous raconte les aléas, les conditions de réussite de VRAC 29 et de son travail. Alors, la semaine dernière, Fred, bonjour Fred.
Bonjour.
Fred nous a raconté ses premiers rapports au travail, puis son entrée dans le métier d'animateur, non pas d'éducateur, d'animateur, et puis la naissance sous un autre nom, enfin c'est la naissance de l'idée en tout cas de VRAC 29, qui commence par une coopérative d'achat avec des habitants du quartier de Kerederne. Et puis à un moment arrive une réflexion profonde sur ce que c'est un groupement d'achat, à quoi ça sert, notamment dans un quartier prioritaire, ce qu'on peut en faire. Et que cette association qui est déjà à Kerederne, enfin c'est cette association dans les faits en tout cas, qui est déjà à Kerederne, décide d'aller voir ailleurs. Donc vous allez à Paris, vous allez un peu partout et vous rencontrez l'association nationale VRAC. Et à ce moment-là, les choses vont vraiment se mettre en place, sauf que on tombe en pleine période Covid où les déplacements deviennent bien compliqués. Donc Fred, reprenons l'histoire où nous l'avions laissée. On arrivait en 2019-2020. L'assos à Kerederne existe déjà. Elle a même essaimé sur la ville de Brest. Elle a même été prise en modèle à Metz, par exemple. Et là, avec les habitants de ton quartier, enfin du quartier dans lequel tu travailles, vous réfléchissez et que se passe-t-il pour aller plus loin dans la création de VRAC 29, de ce qu'est aujourd'hui VRAC 29?
Eh bien oui, effectivement, on arrive en pleine période Covid, voilà, période que j'imagine beaucoup de gens se rappellent. Étrange et angoissante et qui nous a remis chacun chez soi.
Oui,
donc voilà. Donc on pouvait effectivement, alors enfin, faire du télétravail pour un travers social, c'était compliqué quand même.
C'est comme la pluie sur une plage, tout d'un coup il n'y a plus personne. Ouais.
Il n'y avait plus personne, on ne pouvait plus se déplacer. Boris n'avait plus son billet de train.
Donc Boris Tavernier de voilà, VRAC national.
Qui devait venir réfléchir avec nous n'avait plus ça. On annule, on laisse. Ça a duré, je ne sais plus combien de temps.
Longtemps,
semaines,
ça a commencé au printemps, ça a duré jusqu'à l'été, fin de l'été quasiment.
Voilà, donc
et puis c'est reparti l'année suivante.
Voilà, j'y viens sur l'année suivante. Donc on laisse tomber, hein, parce que de toute façon, c'était hors de question que l'on monte une association qui est censée mobiliser les habitants, prendre la parole des gens et de la monter pas en visio, quoi. Ouais, j'allais pas faire des visios avec Kerederne. Ça n'avait pas de sens dans mon jardin.
Et oui, ça passe mal par Zoom. Ouais.
Voilà, par Zoom, on n'aurait pas monté cette asso, donc on la laisse un peu de côté. On continue de travailler. Hein. Par contre, cette période de Covid a été quand même l'occasion de réinventer aussi. Et le thème de l'alimentation pendant et des circuits courts pendant cette période a été une question centrale.
Mais il y avait toujours des rendez-vous avec les agriculteurs une fois par mois pour acheter les produits.
On n'avait plus ces rendez-vous-là, parce que déjà les agriculteurs étaient submergés par la demande. Submergés par les demandes de...
Ah bon,
parce que les gens se mettaient à... Il y avait du supermarché, les gens...
On arrive sur le téléachat, quasiment.
Voilà, il y avait des... On pouvait faire du drive pour aller chercher...
Oui, du drive.
Et voilà, ils faisaient des drives, des paniers, et pour qu'on allait chercher dans une pharmacie, dans un machin, dans une cave à vin, etc., etc. Et donc, ils étaient submergés par ça. Et nous, les centres sociaux étaient fermés, de toute façon. Il n'y avait plus d'accueil physique. On a été, par contre, justement, ce travail qu'on a fait, quand je parlais de l'aura un petit peu de ce projet-là au niveau national, on a été, pendant cette période-là, interpellé par la CNAF.
La
CNAF, c'est la Fédération des CAF en national.
D'accord,
quoi.
Ouais.
La CNAF qui avait entendu parler de nous, des CAF à des champs, et qui réfléchissait à... une expérimentation de paniers alimentaires dans les quartiers et à travers les centres sociaux. C'est une opération qui était vraiment spécifique aux centres sociaux. Donc, on a fait là, pour le coup, on a monté un projet en visio et en Zoom avec Paris. C'était avec des personnes de la CNAF, le CIVAM aussi, via le CIVAM aussi, qui travaille avec nous. Donc, on a réfléchi à des paniers de produits alimentaires distribués dans les centres sociaux aux habitants des quartiers, parce que il y avait toute une solidarité autour de l'alimentation. Il y avait des chèques alimentaires par la ville, les gamins ne pouvaient plus aller à la cantine, et on se posait la question, est-ce qu'ils allaient vraiment bien manger chez eux? Il y avait tous ces questionnements là qui étaient présents, et donc on a avec la CNAF, on a été terrain d'expérimentation pour la France de ces paniers alimentaires. C'est-à-dire qu'on avait une enveloppe pour acheter avec nos producteurs, du coup. Avec
donc, c'était un budget supplémentaire donné.
Ah bah là, c'était un gros budget. Oui, ils avaient, je crois, sur la ville de Brest, il y avait eu 60 000 euros qui avaient été distribués aux différents centres sociaux, à plusieurs centres sociaux, et sous nos critères. D'ailleurs, c'est nous qui définissions les critères d'obtention. Les gens avaient un panier avec nos producteurs. Donc, ils avaient une soixantaine d'euros par famille.
D'accord.
Et où on appelait, après nous, notre boulot était d'appeler les familles qu'on avait repérées, les cautions par rapport aux cautions familiaux qu'on connaissait, interpeller les travailleurs sociaux pour savoir quelles familles étaient un peu, auraient pu bénéficier de ces paniers-là. Donc,
le projet continue sous les conditions du Covid, où les gens apprennent à utiliser des outils informatiques, à faire du collectif sans l'agora. Enfin.
Voilà. Et nous, c'était alors là, pour le coup, on trouvait ça très... Alors nous, on avait cette utilité qu'on trouvait grandiose, parce que que faire pendant le Covid, quoi, à part sa balade d'une heure,
oui.
Les apéros Zoom, et bien manger et bien boire comme on a tous fait, après, au bout d'un moment, qu'est-ce que tu peux... Où tu peux être utile, quoi.
Oui.
Et ça, on trouvait vraiment cette utilité. Il y avait aussi le fait de pouvoir sortir, ce qui n'est pas anodin pour les bénévoles.
Ils avaient une permission.
On avait tous une permission pour pouvoir sortir. Des retraités, eux, ils n'avaient pas, à part pour promener le chien aller faire ses courses de première nécessité, acheter son pain. On pouvait pas faire grand-chose.
Ouais, c'était un peu terrible, on était un peu
coincé. Et puis il y avait cette peur quand même des gens, et notamment des personnes âgées, de sortir.
Oui, il y avait, dans l'air, on nous avait fait tellement peur, c'est vrai que t'as l'impression que c'était la peste.
Et donc on a fait ces paniers-là qui nous ont permis de continuer quand même pendant cette période-là. La vie courante est revenue, la vraie vie, entre guillemets. On a remis un peu cette idée de vrac sur le feu. On a retenté, on s'est redonné rendez-vous. Et je ne sais pas si tu vas me croire, mais repatatras, re-Covid, re-confinement.
Mais j'étais là, si, je me souviens.
Et donc,
ouais.
Boris n'a pas pu venir la deuxième fois.
Ah, c'est vrai?
Mais oui, on avait tout relancé la chose, mais il n'a pas...
Ça a été plus court, la deuxième fois.
Ouais, ça a été plus court. Mais là, du coup, on s'est dit, bon, on y va, on se lance. Et on a réfléchi d'abord comment on allait faire. Et ensuite, moi, de mon côté, au niveau du centre, j'ai un peu avancé dans cette idée avec certains habitants qui étaient...
C'est quoi les actes qu'il fallait poser là pour aller plus loin?
Alors il fallait créer une association.
Donc créer une association.
Clairement, il fallait créer une association pour pouvoir émarger des premiers financements.
Parce que jusque là, tout s'était fait hors d'une association. Enfin, c'était juste le centre social qui portait un peu l'affaire.
C'était ça. Et avec l'accord, moi j'avais dit un petit peu ma stratégie en disant voilà, moi j'aimerais bien monter ce vrac, mais ça partira d'ici, quoi. Ça partira du terrain, quoi. Et donc, donc, il fallait monter cette association pour pouvoir avoir des subventions, des financements. Entre-temps, moi, du coup, sur mon temps libre, je démarchais un petit peu les financeurs, etc., etc.
Oui, donc ça veut dire formaliser bien le projet, aller voir les
Formaliser,
politiques
bien
qui.
vérifier que sur le territoire, il y avait le besoin, je le connaissais, les attentes politiques, elles n'étaient pas sûres. D'autant plus que sur ces thèmes alimentaires, la ville de Brest et de l'accès à l'alimentation étaient plutôt partis sur un système d'épicerie solidaire,
Oui, comme ils ont fait
puisque
avec les étudiants à un moment, je crois.
voilà, et c'est vrai que
C'est autre chose, c'est autre chose.
c'était une promesse de campagne du maire de mettre une épicerie par quartier.
Ah oui.
C'était pas forcément une évidence. Maintenant, les différents partenaires que j'avais pu rencontrer trouvaient l'idée quand même assez sans sas de travailler sur ces groupements d'achat. Voyez bien que quand on faisait intervenir Boris et le succès que ça avait dans les autres villes et de les autres collectivités, d'habitude c'était plutôt d'ailleurs des collectivités qui venaient chercher vrac en disant nous aussi on veut du vrac, quoi. Nous,
Mais
on
la
a bien
grande
expliqué.
différence, je crois que c'est avec Vrac 29 par rapport à une épicerie solidaire, c'est l'implication des habitants. Ils sont beaucoup plus impliqués par
Alors, il y a une application bénévole dans les réseaux des épiceries solidaires, mais là, c'est vrai que les participants sont acteurs dans le choix des aliments, de ce qu'on va proposer, dans la gouvernance aussi
Oui, c'est ça.
de l'association, dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix. Et puis, effectivement, après, on a cette patte un peu éducation populaire qui est
Oui.
forte, quoi. Donc, on revendique et on agit dans ce sens-là, quoi.
Alors, quelle est la réception des politiques, justement, de ceux qui
Ben,
peuvent
super,
fournir.
c'était si, enfin, les partenaires financiers et politiques, en tout cas de terrain, étaient enjoués, hein, vraiment. Il y a eu un soutien, et notamment les politiques de la ville, les contrats de ville, etc. Et donc, on a monté cette association en juillet 2021, Vrac 29, avec des habitants au départ de Quéréderne, du centre social, parce que c'était là que c'était né. Mais mon idée était de créer entre guillemets, une association un peu fantoche pour pouvoir co-construire avec d'autres habitants et d'autres quartiers.
C'est pas fantoche, elle a
Enfin,
son rôle.
ouais,
Mais
mais
ça part de Kéréderne, mais oui, effectivement,
voilà, mais
toi,
on
tu pensais
voulait,
à
je voulais
l'échelle de la
très
ville.
vite, voilà, les statuts, on a fait un copier-coller de statuts
Oui, oui,
de
oui.
vrac qui existaient ailleurs, mais on voulait avoir nos propres statuts et réfléchir par nous-mêmes à ce qu'on voulait être, quoi. Parce que il y a cette spécificité dans les vracs. Chaque vrac a sa propre autonomie et sa propre histoire. Et c'est pas un, c'est pas une, on n'est pas franchisé, quoi.
Oui.
C'est pas une franchise vrac. C'est un soutien, mais c'est pas une franchise. Et c'est en aucun cas, en fait, ils interviennent dans notre projet associatif et on est
D'accord.
totalement libre de nos mouvements. Et donc on monte cette association-là en 2021, été 2021, avec des habitants.
D'accord. Et là, toi, tu es toujours au travail, donc ça rentre toujours dans tes
C'est
activités.
ça, c'est ça.
Bon, ça
Alors,
te prend beaucoup de temps, ça peut-être t'empêche de faire autre chose.
j'ai pris, enfin, là, j'y avais un accord un petit peu tacite avec quand même,
D'accord.
mais
En tout cas,
pour
bon,
monter
ok,
le
bon,
truc,
c'est toujours abrité par le centre social.
c'était toujours abrité par le centre social et on négocie effectivement. Alors, chez les financements qui commencent au moins des promesses de financement avec le contrat de ville, avec un soutien de vrac national aussi pour pouvoir financer mon poste sur la fin de l'année et de pouvoir réellement être à plein temps pour le coup dans l'association.
Ah, mais ça veut dire quitter le centre social?
Je quitte le centre social, je négocie une rupture conventionnelle avec le
D'accord, et là tu
centre.
te poses pas des questions
Ah bah
là?
je flippe si quand même un peu. Oui, c'était
Parce que là
pas.
t'es dans un CDI et
Ah, je quitte un CDI, effectivement.
pour aller dans une asso qui marche bien, dont on a besoin, il y a l'argent qui tombe, etc. Mais enfin bon, on connaît
Enfin,
pas l'avenir.
au départ, il y avait peu d'argent qui tombait, hein.
Oui,
Il y
en
avait
plus,
juste
ouais.
de quoi payer mon salaire jusqu'à décembre, hein.
Ouais. Donc
Donc,
c'est un risque quand même.
c'était un risque, quoi. Bon, après, y avait des signaux. J'avais pas été, enfin, j'avais
oui.
tâté le terrain. C'est comme quand on monte une entreprise, un peu comme on y va, on fait une étude de marché, on sait, on a un prévisionnel, on sait à peu près qu'on va être soutenu par, voilà, que notre chiffre d'affaires sera à temps. Là,
mais on fait des simulations, hein.
On fait des simulations. Et ben oui, et puis finalement, faut se lancer, sinon. Voilà, mais effectivement, c'était un risque et c'était.
Mais pourquoi pas continuer ce projet au sein même du centre social, à l'abri d'une institution avec un salaire versé par le centre social?
Parce que la portée du vrac aurait été sur l'ensemble de la ville de Brest, donc il n'y avait pas de raison que ce soit.
Ah, ça correspondait plus à l'échelle.
Voilà, c'était pour.
Kéréderne, le centre social de Kéréderne ne peut pas travailler à l'échelle de la ville, si, quand même.
Si, ils peuvent, mais.
Il y a un décalage.
Ouais, et puis c'était. Enfin, vrac, quand même, c'est des associations indépendantes.
D'accord.
Voilà, donc on crée. Il y a eu des projets hein, comme ça dans d'autres villes. Hein, Là, l'idée, c'était quand même d'être autonome et puis de.
Et c'est ce que tu préférais aussi, peut-être, toi.
Moi aussi, j'avoue.
Ça te donnait une autonomie, quoi.
Complètement. Sachant que, voilà.
Mais l'autonomie, on la paye toujours un peu, mais bon.
Non. Et puis, voilà, moi, j'avais un peu fait le tour aussi de. Enfin, j'avais même fait le tour de mon. Ça faisait 10 ans que j'étais au centre social, avec des hauts, des bas, et même les relations internes étaient des fois, parfois, conflictuelles et compliquées.
D'accord, donc tu as refait un.
Voilà, donc
un départ à neuf.
Voilà, je repars de zéro, je quitte. Je demande quand même d'être hébergé dans le centre, parce que je n'avais même pas de locaux. Hein. Au départ, il n'y avait pas de locaux. Donc, est-ce que symboliquement, je trouvais en plus que ça avait justement
un peu
de sens et voilà, d'être, avoir le siège social, par exemple, de l'association au centre social, et puis de pouvoir, en tout cas dans les premiers temps, pouvoir travailler au centre social, avoir
avoir la logistique, la photocopieuse.
Ah, voilà, voilà, exactement. Ça s'est bien passé pendant 15 jours, et puis il y a eu un gros conflit avec mon directeur à l'époque, qui a senti une espèce de concurrence, puisqu'il a découvert que. Enfin, je sais pas d'où.
Ça a pris une ampleur qu'il a dépassée, peut-être, qu'il n'avait pas prévu.
Ouais, je ne sais pas. Non, parce qu'au départ, il n'y avait pas forcément une grosse ampleur. Hein.
Non, oui, c'est vrai. Oui.
On débutait. Mais mon but était quand même de débuter sur les quartiers de Kéréderne, de Kéliverzan. C'était plutôt là que je voulais commencer. Mais au bout de 15 jours, effectivement, il a vu que. Je ne sais pas ce qu'il a vu, d'ailleurs. Il a pensé que ça serait une concurrence, que j'allais. Piquer la substance des centres sociaux à mon pour monter
oui tu
mon
détournes business. Tes adhérents,
voilà, les adhérents, le sens, les groupements d'achat, etc. et on est parti en très grand conflit jusqu'à me faire effectivement exclure
te faire exclure, c'était en même temps ton souhait, enfin
ouais, exclure physiquement, mais de plus pouvoir avoir le droit à un moment de.
Ah, t'avais plus tes locaux là.
J'avais plus mes locaux, mais on me faisait bien comprendre qu'il ne fallait même plus intervenir là-bas. Donc ça a été médiation, etc. Ça a été un peu loin, mais j'en parle très tranquillement.
Et tu travaillais où alors?
Alors là, du coup, j'ai été hébergé. Du coup, je reviens en arrière. C'était un peu drôle parce que souvent, moi, quand je pars d'un endroit, je dis vous inquiétez pas.
T'es revenu au Valir?
Et je suis revenu dans le local associatif de Kéliverzan.
Ah, Kelly,
voilà, d'accord. Donc j'ai eu mes bureaux, les bureaux sont
et là. Et grâce à qui alors? C'était par la MPT du Valir, là.
Exactement, voilà, tout naturellement, j'ai été voir. Parce
d'accord.
Que, mon plan était quand même d'aller travailler avec le Valir,
ouais.
Kéliverzan. Donc voilà, je suis parti là.
C'est dur, ouais.
C'était, voilà, du coup, je me retrouvais tout seul dans un local un peu vide, un peu glauque.
Ah, c'est pas difficile,
très, très drôle,
ouais.
Bon, j'étais beaucoup avec des partenaires, etc. Et donc, ça a quand même mis un gros questionnement, parce que au projet, un gros caillou dans la chaussure dès le départ, parce que cette situation a été longue à sortir. On a mis beaucoup de temps à sortir de cette situation-là avec le centre social. Ça s'est arrangé, hein, après, mais effectivement, perdre la légitimité du. Enfin, si j'avais plus la légitimité du quartier où j'avais travaillé pendant 10 ans,
ça me
paraissait.
Oui, c'est un.
Cela dit, bon, il y a eu quand même une certaine confiance de la part des partenaires qui ont.
Puis il est resté les habitants, peut-être. Sauf que tu les voyais moins parce que tu n'étais plus là.
Je les avais. Ils ont jamais été démoralisés. Enfin, ils étaient démoralisés parce que, à part la situation, mais pas démobilisés. Et donc, ils ont constamment suivi. Et c'est d'accompagner le fait. Alors, quand on était avec les habitants de Carélan, on n'était plus à Carélan, mais ils ont œuvré pour que ça se fasse ailleurs et en attendant que ça puisse se faire à Carélan. Ça s'est fait par la suite parce que ça s'est
Ah, parce
arrangé.
que le centre avait le moyen de bloquer le projet à Carénerne
Ben,
en
oui.
prêtant pas ses locaux pour une distribution, par
Voilà, par
exemple.
exemple.
Et ça, il aurait été jusque-là?
Mais il l'a fait.
Il l'a fait, ok, bon. Bon, on va
Donc,
oublier ça.
voilà, on va passer à autre chose. On a essayé de passer à autre chose. Mais c'est vrai que au départ, j'ai eu passé des nuits
Oui,
un peu
j'imagine.
horribles et ça a été psychologiquement très dur pour moi et puis même pour aussi pour beaucoup d'habitants, par la même occasion
Et
qui
tu avais des
croyaient.
gens très proches pour te dire non, tu vas dans la bonne direction ou
J'avais à peu près tout le monde qui me disait que tu vas dans la bonne
Ah
direction.
ouais, non, sinon seul, tu tiens pas. Ouais.
Ouais, non, 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 j'avais mes anciens collègues, j'avais les habitants avec qui je travaillais sur les quartiers, j'avais mes amis, bien évidemment, j'avais les partenaires politiques et institutionnels, donc oui,
Ouais.
qui me disaient non, non, mais
Ouais, c'est.
il y
Ouais.
a. C'était un souci, je pense que là, c'est au-delà, c'était un souci de personne entre
Bah
lui et
sûrement,
moi,
ouais.
et.
Mais bon, il a dû perdre. Enfin, c'est dommage qu'il soit exclu
Bah, je
d'un
sais pas
projet qui
qui a
marche,
gagné, qui
ouais.
a perdu, j'en sais rien.
Maintenant, il y a un dépôt à Carréderne, ouais, ça s'est
Bah, on
arrangé.
sait, on est de retour. Il y a un moment, de toute façon,
D'accord.
il a. Il a été obligé
Ah, donc
de
c'est même
baisser
lui
sa
qui
garde.
finalement vous a fait
Bah, il a dit,
venir.
bah oui, bah oui.
Ah bah
Enfin,
super,
au bout de
bon.
6 mois, il
Ça se
s'est bien
termine
rendu
bien
compte.
cette histoire.
Il s'est bien rendu compte
D'accord.
qu'il était un peu seul, ou en tout
Ok.
cas pas beaucoup accompagné dans sa vision, quoi.
Donc là où on en est, il y a eu le Covid, il est parti, tu as perdu tes locaux et tu aurais pu perdre ta légitimité. Bon, ça s'est pas fait.
Ça s'est pas fait, heureusement.
À Quéréderne, il te reste toute la sève du projet, qui sont les gens, l'idée, la nécessité, et en plus les autres quartiers. Et là, à un moment, il faut que ça commence et que ça devienne un truc qui marche, c'est-à-dire, il va falloir trouver les produits, il va falloir les choisir, il va falloir les acheter, il va falloir les proposer, bon, via une plateforme web apparemment. Va falloir aussi, même si Vrac National n'est pas une franchise, mais bon, ils ont quand même des méthodes qui sont éprouvées. Ils mettent à votre disposition une plateforme pour vendre. Et il faut des agendas, des fournisseurs, etc. Alors, et là, tu es tout seul. Comment tout cela se met en place et avec quel argent aussi? En sachant quand même la difficulté supplémentaire, c'est que tu fonctionnes sur des subventions. Et quand même, dans pas mal de cas, les subventions arrivent après les besoins. Donc voilà, quels sont les premiers pas, premières actions, premières ventes
On a commencé en janvier 2022, première distribution. Exactement, d'ailleurs non, en décembre 2021, avec des agrumes qui venaient de Sicile, avec nos collègues de la Galinée Felici, les Poules Heureuses. C'est des agrumes d'un consortium bio qu'on fait venir de Sicile et qui arriveront d'ailleurs, je fais la commande lundi pour qu'elles arrivent dans 15 jours, les nouvelles. Et donc, on a commencé à Quille-Vergent à vendre ses agrumes pour les fêtes de Noël, Quille-Vergent et d'autres quartiers. Ça a été la première acte. Et puis ensuite, les premières distributions réelles, avec un catalogue, avec des produits, ça a été en janvier 2021, sur Quille-Vergent et sur Pennacréache. Sur Pennacréache.
D'accord. Et là, il faut un camion, il faut une plateforme web,
Alors
il
oui,
faut des
bah.
distributeurs. Donc là, est-ce que les bénévoles sont à la fois là et compétents pour le faire et
Alors,
disponibles?
les bénévoles sont là, de toute façon, parce que voilà, sinon je ne pouvais pas faire tout seul. Hein. Non, non, les bénévoles étaient là. Sur Quille-Vergent, c'est vrai que le fait de revenir un petit peu 10 ans ou 15
Oui.
ans, bon, je connaissais du monde, je connaissais des habitants, je connaissais des parents, je connaissais des gens qui voilà, donc j'étais pas illégitime et donc plus simple à mobiliser. Et j'avais cette chance-là quand même, du coup, en ayant bossé sur ces groupements d'achat avec les autres centres sociaux et d'être dans le giron des centres sociaux, d'être un peu connu, entre guillemets, d'autres habitants dans d'autres quartiers. Donc, c'était assez,
Oui, tu
assez.
avais un parcours qui faisait que la
Alors,
ville, t'étais pas inconnue. Ouais.
j'étais pas inconnu et c'est ce qui a facilité aussi
Et ceux de
pour vendre aux
Kéréder
autres.
étaient toujours là aussi.
Ah oui, et étaient plus qu'actifs au départ.
Ah ouais.
Donc, on a commencé effectivement les premières distributions. on achetait, effectivement, moi je me suis appuyé alors, sur les réseaux des agriculteurs que je connaissais, hein, d'avant, et la spécificité de Vrac, c'est d'aller aussi dans des produits secs, dans des produits qui viennent d'un peu plus loin, qui collent un peu plus à l'alimentation en règle générale. On ne mange pas que du chou-fleur, des carottes et des oignons, même si c'est très bon en Bretagne, mais l'alimentation, c'est pas que ça. Et c'est des pâtes, c'est du riz, c'est des légumineuses, c'est des choses pour se faire plaisir avec du chocolat, aussi de l'huile, du fromage. Enfin, il y a plein de choses qui font que c'est une alimentation et qui pourrait permettre aussi d'ouvrir à d'autres cultures qui ne connaissaient pas, qui ne mangent pas ce qu'on peut produire dans le coin, ou qui ne savent pas les cuisiner. Enfin, je mets au défi, par exemple, alors souvent on me dit, ils font pas d'efforts, ils savent pas cuisiner un chou-fleur. Moi, je vais donner une racine de manioc à un bon breton et puis on va voir ce qu'il va en faire, quoi. Oui. je ne suis pas sûr que ce soit très bon.
Moi, je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais cuisiné du manioc. Mais,
chacun sa culture et son parcours culinaire.
OK. Le camion, là.
Le camion.
Il n'y a pas de camion.
Si, bien sûr, il y a un camion. Bah, oui,
donc, vous le louez.
On le loue, super.
Ouais, bien. C'est tout. Ouais. OK.
Ça, pour l'instant, au début, ça se loue là. Et ensuite, maintenant, on mutualise avec l'épicerie solidaire. Donc c'est ça qui est bien, parce qu'on est en réseau.
Et les fournisseurs, parce que l'huile, où tu la trouves, les agrumes, où tu le trouves, là, c'est peut-être le Vrac National qui...
Au départ, ouais, tous ces produits-là... non, les agrumes, ça, c'était nous qui avions ce plan Bresto-Brestois historique des Cabas des Champs et que j'ai continué.
Ah, d'accord.
Et
là, ouais.
Du coup, j'ai un peu... On a augmenté petit à petit les achats, on arrive là, j'ai commandé, je dois commander 3 tonnes pour l'ensemble de la ville de Brest, parce que je continue à leur fournir un petit peu. Et du coup, je vais prendre un espèce de catalogue, il y a un catalogue quand même avec des fournisseurs nationaux qui ont été négociés par le Vrac National, puisqu'ils vont avoir du volume, parce que ce fournisseur-là va fournir Bordeaux, d'accord, Marseille, Strasbourg et Lille, quoi.
Il y a un truc, je t'ai pas posé la question, c'est l'articulation avec le Cabas des Champs, parce qu'ils font un peu la même chose.
C'est ça. Alors justement, l'enjeu était d'être complémentaire et non concurrentiel.
Oui.
Donc, ils gardent à l'heure actuelle, chaque groupement d'achat garde un petit peu sa spécificité de Cabas des Champs. Il y a toujours des Cabas des Champs dans les structures qui sont gérées par les centres sociaux, par des animateurs, par des bénévoles. Nous, on vient en plus. On va avoir certains produits que ne peuvent pas proposer, soit parce qu'ils n'ont pas le volume ou la logistique, certains cabas des champs, mais dans trois endroits, comme Quélyverzan, où il n'y avait pas de projet sur l'alimentation, bah là, on va faire une offre complètement complète avec les produits locaux, les légumes, les produits laitiers, les fromages, etc.
Combien de produits vous avez de référence? Excuse-moi, là, je ne t'avais pas prévu.
Ouais, là, tu m'as... Bah, ça dépend déjà de la saison, les légumes, mais on va être sur une centaine sur Quélyverzan et puis sur une centaine de produits sur... quand il y a les légumes, les fromages, les produits laitiers, tout, produits frais et épicerie. Et je veux dire une cinquantaine sur les autres.
Quoi. D'accord, ouais. Alors, tout ça fait un sacré travail, on imagine, de stock, de déplacement, de comptabilité. Et en plus, il y a une troisième chose dont on n'a pas encore parlé, c'est que l'ambition de Vrac 29, c'est de répondre donc aux besoins de la population, et une population un peu particulière, même si vous vous adressez à tout le monde, vous vous adressez y compris au centre-ville, etc. Il y a 3 tarifs.
C'est ça.
Et dans ces 3 tarifs, il y a même un tarif qui pourrait vous faire perdre de l'argent, parce que vous vendez vous vendez à perte pour les tarifs les plus bas ou...
Alors effectivement, alors depuis maintenant depuis 2023, c'est à la base la philosophie, la politique de Vrac, c'était le prix coûtant pour tout le monde, voire plus 10% ou plus 15% pour certains, et prix coûtant pour les habitants des quartiers, etc. Il se trouve que le Vrac National, justement, c'est un peu la force d'être dans un réseau, à émarger, alors déjà, et habilité aide alimentaire. Donc, à toute la légitimité d'aller choper des financements nationaux sur l'aide alimentaire en tant que telle.
Les crédits il n'y a pas que les financements locaux.
Non, il y a aussi des financements nationaux, et notamment un financement qui est le Fonds Mieux Manger pour Tous, qui est un peu post-Covid, justement, où il y a eu beaucoup d'interrogations sur l'aide alimentaire. Et on voit que le système d'aide alimentaire classique, il est à bout de souffle, produit quand même certaines violences. Je remène sur le livre de Bénédicte Bonzi, La France qui a faim,
j'ai pas lu,
qui parle de ces violences-là et de la difficulté.
Quel type de violence ?
Les violences qu'on peut avoir dans l'aide alimentaire quand on va à une. Alors, elle a passé beaucoup de temps dans les distributions des Restos du Cœur. Et elle raconte cette violence que peuvent avoir. Alors déjà, une violence psychologique de se lever le matin, d'aller faire la queue, parce qu'il faut le voir, hein, c'est des queues. Les gens arrivent 1 heure à 2 heures avant, voire plus pour pouvoir avoir une place dans la file, des violences physiques dans la file, des conflits. Et puis cette violence après de ne pas pouvoir choisir, de voir des produits qu'on voit en rentrant mais qui sont plus là, d'avoir cette frustration de ce qu'on donne et ce qu'on ne donne pas, et puis après des violences sanitaires, hein, de qualité de produits qui sont l'aide alimentaire la qualité de l'aide alimentaire est assez c'est catastrophique. Alors ça a tendance à essayer de s'améliorer. Le fond du moment, pour tout, c'est justement fait pour que les structures puissent acheter de l'aliment, des produits sains et de qualité. Mais là, on est sur le système de dons des particuliers.
C'est pas du tout la même chose. Ouais.
Quand on est par exemple dans une campagne, faut regarder un peu les campagnes d'aide alimentaire. Quand on rentre dans un supermarché, quand il y a le Resto du Cœur, le Secours Pop ou la Banque Alimentaire qui propose un samedi, et souvent ils font les supermarchés font un espèce d'exemple de ce qu'on pourrait acheter. Vous regardez, c'est que des produits ultra transformés, premier prix. Il n'y a pas de bio, hein. Non, c'est la marque repère de cassoulet. C'est que des produits.
Des produits transformés, c'est très important.
Transformés, sucrés, etc. etc. quoi.
Oui, l'autre jour, moi, quand j'étais à Kelly, donc vous rencontrez, c'était au contraire, c'était que des produits, je ne sais pas comment on les appelle, mais primaires, je ne sais pas si on dit primaires. Des fruits secs, des légumes secs, de la farine, de l'huile, bref, des choses pour faire à manger, pour cuisiner. Ouais.
C'est ça, c'est notre leitmotiv, c'est la qualité des produits. C'est que la qualité, elle ne doit pas être réservée qu'à un certain nombre, et surtout qu'on puisse la choisir.
C'est ça, plus que la qualité, c'est aussi aller vers un projet où les gens vont se faire à manger véritablement. Et donc, c'est une réflexion profonde sur la nourriture, enfin l'alimentation.
Complètement.
J'en étais, on a un peu dévié là sur les trois tarifs. Donc il y a des subventions nationales, voilà.
C'est ça. Donc trois tarifs chez Vrac maintenant. Un tarif à moins 50% pour. Alors, premier tarif, c'est moins 10%, c'est à peu près la moitié de nos adhérents. C'est l'adhérent un peu historique, j'ai envie de dire, c'est la personne qui habite en logement social. BMH, hein, sur Brest, hein, c'est quasiment mono-bailleur. On est à moins 10% du prix coûtant, une adhésion à 1 euro. On peut avoir moins 50% si on a un quotient familial inférieur à 400 euros.
400 euros par mois
Par mois. Ouais. Alors, c'est pas les revenus à 400 euros, c'est en même temps, ça c'est un peu corrélé. 400 euros, c'est le quotient familial, donc c'est l'ensemble des revenus divisé par le nombre de personnes dans le foyer.
C'est très peu.
Pour une personne, ça équivaut à quelqu'un qui est au RSA, voire petit RSA, parce qu'il y a des différents paliers, pas beaucoup de.
C'est combien de vos adhérents?
Et là, on est à un tiers. Un tiers. Là,
c'est une charge.
25%.
Logiquement. C'est une charge, mais là-dessus, vous avez des subventions.
C'est ça. Et autrement, qui nous sont amenés par des travailleurs sociaux, CDS, CCAS, avec une orientation sur l'aide alimentaire classique. Et au-delà de ça, VRAC va parler pour tous, et puis on est ouvert à tous. Au-delà de ces critères-là, on habite une maison, on a.
Oui, je sais, l'autre jour, j'ai vu des gens qui n'étaient pas du tout les tours, qui avaient ce qu'il faut, mais qui trouvaient leur bonheur aussi.
Exactement. Donc, eux, les personnes qui ont plus de 800 de caution familiale, qui habitent en maison, etc., qui ont a priori, eux, le choix de leur alimentation, ils ont le droit aussi de choisir VRAC et de venir chez nous.
Mais ils payent 10%.
Ils payent 10% du prix coûtant, ce qui est quand même intéressant.
Selon une femme que j'ai interviewée, qui a bossé dans la grande pharmacie, donc ça va, elle avait les moyens, elle disait qu'elle y gagnait quand même, même en payant 10% de plus que de ce que vous voyez.
Le calcul, il est très simple. En fait, quand on va dans un magasin, nous, on a les mêmes prix, finalement, qu'on a les prix professionnels. En achetant en gros, on a les mêmes prix qu'une épicerie, qu'un magasin. Je ne vais pas citer les enseignes de bio, mais on est sur les mêmes, à peu près la même gamme de produits, les mêmes produits et les mêmes prix, voire des fois un peu plus moins cher.
Tout est bio ou...
Tout est 90%, c'est bio.
Ah ouais, d'accord.
Et en fait, la seule différence, c'est qu'eux, ils vont faire une marge de 30% minimum. C'est la marge moyenne
Oui.
d'un magasin.
Vous avez ton salaire et celui de Céleste,
C'est
ta
ça,
collègue,
c'est
à
ça,
payer.
c'est ça. Et pas de locaux, etc. Et nous, on revendique le fait de travailler avec un certain public. C'est aussi ça. Et que ça doit être accompagné par les financeurs, le bien manger. Et du coup, ces 30%-là, nous, on a moins de marge. On va marger à 10% pour des personnes. Donc, on a quand même 20% moins cher que ces magasins-là. Enfin, c'est
D'accord,
assez
oui.
classique, pas sur tous les produits, mais sur l'ensemble.
Et les gens qui ne sont pas des quartiers prioritaires viennent, commencent à venir. J'en ai vu, hein, mais
Ah oui,
je.
on a à peu près. La moitié moins 10, un quart moins 50, un quart plus 10. En gros, de nos adhérents et de gens qui viennent à chaque distribution.
D'accord.
Donc la proportion, elle est plutôt chouette.
Et alors, il y a un travail immense parce qu'il y a des tonnes de nourriture qui circulent, il y a des rassemblements, il y a de la logistique. Évidemment, tu ne peux pas le faire seul et même avec ta collègue, tu ne pourrais pas le faire. Est-ce que c'est... Comment ça se passe avec les bénévoles que j'en ai vu, ils ont l'air très motivés, mais bon, faut organiser tout ça, surtout que c'est très pratique, enfin, c'est à telle heure, c'est telle quantité, etc. Comment ça marche pour les aspects très lourds qui peuvent être bons? Il y a déjà le site web, donc c'est le système de commande. Après, il y a la comptabilité, enfin, ou avant, enfin, en même temps. Et il y a la logistique et la distribution. Est-ce qu'il y a des gens qui se spécialisent, des bénévoles qui se spécialisent, et comment ils sont encadrés, comment tout ça est mesuré?
Déjà, les bénévoles ont souvent beaucoup de compétences.
Ah oui.
Voilà, des compétences, des fois, ils sont plus compétents que moi, ils sont plus organisés que moi, ils sont
D'accord.
plus carrés. Voilà, effectivement, il y a tout un pôle de bénévoles qui va être sur la distribution, à peser et à être en contact direct avec les gens. Finalement, moi, je pèse très peu. Et ma collègue aussi, on pèse très peu, parce qu'on est plus dans l'accueil,
Oui.
dans l'orientation, justement, mobiliser les gens, motiver les gens, faire en sorte que ça soit aussi sympa. Parce que, et puis, certains bénévoles, ils veulent que ce soit carré, que ce soit. Voilà, ils ont une mission, quoi.
Moi, j'ai
C'est leur mission.
rencontré par exemple Bertrand
Voilà. Alors.
qui s'occupe du site web. Il a l'air très carré dans
Alors,
son domaine.
Bertrand, c'est effectivement notre informaticien en chef,
Oui.
mais c'est une ressource pour l'association VRAC qui est énorme. Moi, c'est des choses en plus que je ne suis pas du tout spécialiste, hein. L'informatique, c'est pas mon dada. Les chiffres, faire des rapports, des tableaux
Ah
croisés
oui, ça va jusqu'au
dynamiques.
rapport, il fait des tableaux Excel à la volée comme
Extraordinaire,
ça.
voilà. Et puis moi, ça m'aide énormément dans mon boulot, quoi.
Oui,
Donc
oui.
on se, voilà, lui, il sera là, plus on fait les remontées de chiffres ensemble, tous les deux, pour le VRAC national. Lui, il est valorisé, moi, ça m'aide.
Lui est
Mais
très content de faire
il est
ça,
très
ouais.
content.
Mais il
Et
travaille gratuitement, mais il fait des travaux.
ouais.
Enfin, ouais.
Alors, une fois par mois, effectivement, et il est capable de prendre une d'être à la caisse, à la distribution, de gérer la plateforme. Épicerie, donc c'est mon
D'accord.
épicerie VRAC, hein. Voilà, il est capable de le faire et c'est très riche, ça. Et c'est un peu la spécificité, hein, quand les collègues de VRAC national viennent, ils sont enjoués par justement cette implication des bénévoles. C'est assez rare
Ah, c'est vrai, bah
dans le
c'est...
milieu VRAC qu'il y ait une aussi grande confiance qui est faite aux bénévoles.
Ah.
Parce que souvent, on peut avoir.
Bah oui, on peut en avoir peur parce
On va, on va peur,
que...
on va, voilà, on a envie de tout
On a envie de contrôler, quoi.
contrôler et on voilà, mais alors les autres bénévoles, ils font autre chose sûrement, mais elle dit franchement, t'es l'un des seuls à qui peut discuter pendant une distribution, quoi. Parce que les autres, ils sont dans les autres
Ouais,
distributions,
ouais.
partout, ils sont très. Mais en fait, et ce que j'avais dit à Céleste, à ma collègue, j'ai dit, écoute, Céleste, tu auras réussi ton boulot si le jour d'une distribution, tu n'as rien à faire.
C'est comme ça que je concevais à un moment le travail d'un directeur d'équipe, c'est que l'idéal, c'est qu'il puisse disparaître. Ouais.
Voilà, donc si tu es là et que tu as pu, du coup, passer ton temps à faire en sorte que ça se passe bien, et que c'est qu'on a. Alors, ça veut
D'accord.
dire qu'avant, tu as bossé, hein.
Mais évidemment, évidemment, évidemment.
T'as mis en place
Mais est-ce qu'il y a une
des
relève
outils.
s'il y a besoin? Si Bertrand, par exemple, enfin, il a l'air à fond,
Oui,
il n'est pas
oui,
prêt de lâcher, ça c'est
oui.
sûr.
Non.
Est-ce que vous envisagez, t'envisages avec Céleste, des fois, voir à n'importe quel poste
Bah,
des.
on travaille tout le temps à ça. On était justement hier en réunion sur une rencontre de bénévoles, entre bénévoles qu'on va faire au mois de janvier, où on va mettre en place des ateliers de formation sur l'épicerie, par exemple.
Ah oui, vous allez vous
Le site,
former
on va former d'autres binômes,
mutuellement et d'autres
voilà,
personnes.
se former, l'auto-formation, les gens qui, voilà, reparler d'hygiène, par exemple. L'hygiène est hyper importante aussi
En nourriture,
dans
oui.
nos distributions. Remettre un coup on porte des gants, fais attention, on met pas ses doigts dans le nez, etc., etc., quoi.
Oui.
Voilà, c'est ce qui pourrait être simple, mais effectivement, on est aussi avec des gens qui. Le rapport avec le travail est parfois compliqué parce que on essaye d'être le plus inclusif. On a des gens qui sont en situation de handicap, physique, mental, même des gens qui travaillent dans des postes de travailleurs adaptés. On
Oui.
a un bénévole, par exemple, qui travaille chez Cével, qui est travailleur handicapé, quoi. Mais on va essayer de s'adapter à chacun pour que chacun puisse trouver sa place. Si sa place, c'est juste de remplir une bouteille d'un litre d'huile d'olive et que ça lui convient, eh ben il sera là à remplir, mais il sera avec les autres, quoi.
Ça suppose une bonne perception des gens et.
C'est notre boulot, ouais, ça c'est sûr
D'accord.
que.
Mais justement, on va y arriver maintenant, alors, parce que c'est un bon boulot, l'émission. C'est quoi ce métier?
Oh là là, bah c'est tout ça, c'est tout ce que je raconte là. C'est tout
Ça.
ça.
Alors, moi, j'essaye de résumer. Alors, tu es animateur au départ. Bon, ça te fait pas peur.
Non.
Ça fait la parole, donc la fédération, susciter les énergies. T'es pas vraiment logisticien, mais ça fait partie du métier. T'es pas comptable, ça fait partie du métier. T'es pas politique, et t'intéresses quand même à comprendre où les choses vont. Comment tu résumerais, tu listerais à la Prévert tes compétences?
Alors justement, on sort aussi cette semaine-là d'un travail qui a été fait. Alors je la recite, hein, parce qu'on s'apprécie, elle apprécie beaucoup. C'est Bénédicte Bonzi que j'ai cité tout à l'heure, qui aussi a fait un travail avec Vrac là, et le résultat a donné lieu à un bouquin qui s'appelle Qu'est-ce qu'on mange, qui vient de sortir là, enfin sortir, qui est disponible notamment en version numérique, et où des étudiants ont fait un stage sur quatre territoires en France, et le travail de Bénédicte, qui est anthropologue, c'était de voir un peu la plus-value de Vrac. Et cette plus-value, au niveau des bénévoles, des adhérents et des salariés. Et elle définit un petit peu le salarié Vrac, hein,
Ouais.
par un couteau suisse. C'est-à-dire qu'il a
Oui.
plein de. Et finalement, couteau suisse, et qui est un peu. Qui essaie
Justement, c'est pas une définition, un couteau suisse, parce qu'un couteau suisse, il fait tout, donc.
Voilà, c'est ça. Donc on a plein de casquettes, on fait plein de choses. Et c'est un travail de dentelière, qu'elle dit dans le bouquin, c'est un travail un peu de dentelière. C'est-à-dire qu'on est sur de la.
Faut les repriser là où il y a un trou, quoi.
Voilà, et puis et dans quelque chose de très très fin, en fait, dans la relation humaine, avec les gens, avec les collègues, avec les bénévoles, il y a quelque chose elle le dit, hein, de haute couture un petit peu.
Oui, qui pourrait être fragile, d'ailleurs, qui
Voilà,
pourrait.
qui est très fragile. Parce que justement, mais qui demande beaucoup de soins et qui demande effectivement le fait d'être très précis, très à l'écoute, voilà,
Même en remise en question
de
parfois.
remise en complètement, complètement. On est tout le temps en train de se remettre. Pour moi, quand on travaille, la remise en question, elle est permanente. Elle doit être permanente. Pour moi, c'est une posture professionnelle de se dire, bah, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai mal fait? On ne peut pas tout le temps se dire, j'ai super bien fait, ouah, super,
Ça pourrait être un travail un peu envahissant, hein. Parce qu'il est très humain, enfin, c'est le minimum de le dire même, et comme c'est le dentelier, c'est-à-dire il y a tout le temps des failles quelque part,
C'est ça.
enfin.
Alors, envahissant, est-ce que le fait de se réveiller la nuit et penser à son boulot, c'est envahissant? Ben oui, sûrement.
Oui,
À
bah
partir du moment où on est là, où on en est là, oui, effectivement, tu penses à ça. C'est quand même très prenant. Il y a des moments où t'as quand même, tu t'es obligé de te dire, ou ton entourage te le dit, lâche la grappe un peu là. Oh,
Oui.
sors de ça, quoi.
Ah oui,
Sors
t'es
de ça.
proche, ouais.
Ah bah oui.
Ah
Et mais
oui, ça peut être
toi aussi, parce qu'il
pénible, bien.
y a des moments où tu dis, j'en peux plus là, j'en peux plus, j'explose,
D'accord,
faut que je fasse
mais
autre
bon,
chose,
il y a des
quoi.
congés comme ailleurs, il y a des week-ends comme
Ouais,
ailleurs,
il y a des
ouais.
congés, mais bon, même là, le week-end est léger, et puis vite on rentre dans le.
D'accord.
Mais c'est un peu dans beaucoup de métiers, mais c'est vrai que ça te prend quand même pas mal l'esprit. Et
Ouais.
puis il y a une charge mentale quand même qui est assez grosse,
C'est
entre,
sûr,
comme
ouais.
tu dis. Tout à l'heure, il y a tellement de tâches finalement à faire et à penser.
Et sans lesquels la chose ne se fera pas,
Et
quoi.
alors, ça peut se faire, mais ça va enrayer un petit peu à un endroit
Ouais.
ou à un autre, quoi. C'est aussi ce qu'on essaye de faire comprendre aux adhérents, qu'on n'est pas parfait, que c'est pas qu'on est deux salariés, que si un jour il n'y a pas de pâte, bah, c'est pas le café n'a pas été livré, c'est pas la fin du monde non plus, quoi.
Oui, il faut un peu de
Faut
souplesse un peu
un peu de
partout, ouais.
souplesse aussi dans
Et
l'autre
alors,
sens,
question
quoi.
délicate, t'es pas obligé de répondre, j'y
Vas-y.
pense maintenant. Comment les salaires sont définis, vos deux salaires Mais bon, c'est il y a un conseil de, il y a un
Il y
bureau, il
a,
y a.
alors oui, on a une association, conseil
Ouais.
d'administration. Alors, on a une convention collective. On est
Ah, il y a une
soumis.
convention
On
collective.
s'est. Moi, j'ai. Quand j'ai monté l'association, de toute façon, pour moi, c'était assez évident que on soit affilié à une convention collective. Pour moi, c'est le béaba de. Parce que en tant que coordinateur de l'association, j'avais aussi en charge la future RH. Alors la RH de moi-même au départ.
Ouais, t'es des deux côtés là.
J'étais que chef de moi-même. Donc il a fallu et c'était assez délicat parce que
Bah oui.
le CA n'avait pas forcément pour l'instant et puis avait pas les compétences de savoir combien était payé, comment on faisait un salaire, comment ça se
Ouais,
construisait, etc.,
non,
etc.
y a des tas de problèmes, enfin des tas
Voilà.
de solutions aussi, mais.
Donc moi j'ai été très transparent avec eux. J'ai appelé mes collègues de vrac, des différents vracs, comment vous êtes payés. J'ai pris un médian. Effectivement,
T'avais ton salaire d'avant qui pouvait servir de référence?
non, parce que je faisais plus la même chose en fait.
Ah, ben
Ah non.
oui, mais tu faisais plus.
Oui, je faisais sûrement plus, ouais.
Et t'étais payé.
J'avais plus de responsabilités.
Ouais.
Non, non, c'était. Pour moi, il n'y avait plus de logique sur.
D'accord.
En tout cas, et au départ, il n'y avait pas de consensus. On n'était pas sur une convention collective. En plus,
Et
j'avais
c'est
pas
la
appris au
convention
départ.
collective de quoi, alors?
Alors là, après là, on est parti sur la convention collective des centres sociaux, la convention
D'accord.
à l'ISFA. Et du coup, là, au départ, moi, j'ai mis un salaire un peu médian.
D'accord.
Aussi, avec les subventions que je savais qu'on aurait sur les premières
Ouais,
années.
c'est ça. Il y a
J'allais
plein
pas
de.
me mettre à un salaire que je ne pouvais pas après
Ouais.
assurer derrière. Voilà, bon, on est resté sur un salaire un peu voilà, médian.
D'accord.
Pas moins que j'allais pas demander le plus bas salaire qu'on pouvait trouver
Non.
à Vrac. J'avais pas demandé non plus celui de Lyon où le mec il a je sais plus 25 salariés et je sais pas combien de tonnes et
Il y a 25
d'adhérents.
salariés au vrac de Lyon?
Oh, ils sont une vingtaine au moins, je dis
Ah oui,
vingtaine,
d'accord, ouais,
ouais, non,
ok.
c'est énorme. Et du coup, voilà. Donc, le questionnement réel s'est reposé au moment où on a embauché la deuxième personne, Céleste,
Ah bah oui.
où là, effectivement, j'ai dit non, bah là, maintenant, c'est plus que pour moi. Là, vraiment, il faut que
Faut être
cette
carré.
personne, il faut être carré. Donc, on s'est affilié à la convention collective des centres sociaux, qui était celle que j'avais, que je connaissais déjà, donc ça me rassurait, et puis qui était plutôt logique dans ce qu'on faisait.
D'accord.
Et donc, voilà, après c'est un système de pesée qu'on a fait. On a fait un travail avec le conseil d'administration. On a une commission RH au sein du alors c'est super hein, dans cette commission RH, puisqu'on a en plus la chance d'avoir une ancienne retraitée qui travaillait qui était inspectrice du travail.
Ah oui, bah ouais,
Donc, elle connaît la poloche.
c'est.
Elle m'explique. Alors, c'est pour ça quand je te dis
Ça, c'est
que
bien.
les compétences des gens sont mises
Oui,
à
oui, oui,
sont mises en œuvre dans le projet. Et ben nous, c'est super. Alors là, il y a eu en plus beaucoup de changements l'année dernière là sur la convention collective des centres sociaux. Et il a fallu expliquer et que nous, on comprenne, parce que des fois, c'est un peu du charabia.
Oui.
Multiplié par le ratio du quotient, par
le nombre
d'années et l'âge du capitaine. Et puis, ça te donne un chiffre et
un
ça
peu
te donne un
mystérieux,
salaire,
ouais.
quoi. Mais du coup, là, elle nous a expliqué. On a fait un travail de positionnement des postes, hein, enfin,
D'accord,
des gens,
d'accord,
des
d'accord.
postes.
Et alors, une question la privée, enfin, que je m'adresse à toi, Fred, plus à Vrac 29. Moi, ce que je vois, c'est un énorme boulot qui, dans le privé, ressemble, ça peut ressembler à des chefs d'entreprise, en fait, dans la distribution, puisqu'ils doivent penser des process, de la logistique, de la comptabilité, des comptes équilibrés, des bénéfices, des clients. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a du marketing, il y a de la production, il y a de la logistique. Si tu faisais un boulot un peu équivalent, mais non plus dans un projet beaucoup plus politique que commercial, enfin qui est nettement plus politique que commercial, mais avec le même boulot, c'est-à-dire il s'agit de trouver des fournisseurs, il s'agit d'acheminer de la bouffe, il s'agit de veiller à la qualité de la nourriture, il s'agit de ne pas tromper les clients, etc. Mais dans une logique business et bénéf, entreprise, est-ce que ça t'intéresserait autant?
Autant je pense pas.
Non, ça c'est
Non,
sûr. Ouais.
je pense pas. Je pense pas. Alors peut-être une petite épicerie, voilà, petite
Ah
épicerie
ouais,
quand
mais non, bah, ça
même.
serait différent. Une petite épicerie, t'auras pas beaucoup de monde. Non, non, là c'est gros business, c'est
Ah
plein de
non,
monde. Ça
mais
se fait au niveau d'une ville.
d'une part, je n'ai ni l'envie et c'est d'autres compétences parce que là on passe à une échelle quand même autre
Ouais, mais
pour développer ça.
fédérer autant de bénévoles avec autant de compétences sur un territoire aussi grand qu'une ville, bon,
Oui,
c'est.
mais c'est un autre boulot. Enfin, pour moi, c'est un autre boulot. Et
D'accord.
c'est pas dans, ouais, c'est surtout pas dans mes
T'as pas
valeurs de
cette
travail.
ambition, hein.
Pas du tout cette ambition-là. Non,
Mais
c'est
alors
sûr.
l'avenir de Vrac et le tien, par la même occasion, au regard des prochaines élections municipales,
Ah.
t'es pas obligé de répondre.
Alors, si je réponds, bien sûr. C'est un devoir professionnel de répondre à cette question. Parce qu'on est extrêmement lié à la politique. Extrêmement lié.
Oui, parce
Donc,
qu'il y a du local, il y a du
voilà.
territoire, il y a de la
Alors,
nourriture, c'est important.
exactement. À l'heure actuelle, alors si on parle au niveau local, on est bien soutenu par la ville de Brest, par exemple. Les équipes en place, ils ont compris, ils nous soutiennent. Alors, il y a des difficultés de financement, mais on n'est pas les seuls et ils font avec ce qu'ils ont. De mettre à disposition des locaux, de mettre à disposition. Déjà, ça, c'est énorme, hein, quand tu n'as pas à
Oui.
payer tes bureaux, ton local de stockage, etc. etc. c'est plutôt chouette. On a aussi des subventions via le contrat de ville. On est très bien suivi par l'équipe actuelle et les élus voilà, nous soutiennent. Ils sont là, ils sont présents et voient la
D'accord,
plus-value
ça
Vrac,
marche,
ça, c'est sûr.
ouais.
Maintenant, quid de ce qui va se passer dans 6 mois? On voit bien que sur Brest, là, autant sur les autres élections, on était plutôt tranquille sur la reconduction, mais on voit en poindre là peut-être une alternance qui serait pour nous problématique, je sais pas, mais en tout cas qui nous interrogerait.
Ils vous ont pas contacté les parties adverses
Non, mais
de.
on va le faire.
Vous allez les contacter.
Ouais, on va le faire. On a justement une stratégie nationale d'interpeller les candidats avec le réseau des épiceries solidaires, l'UGES, hein, l'Union des groupements des épiceries sociales et solidaires. Et on va interpeller, on va organiser, on est en train d'organiser des rencontres, enfin une rencontre en tout cas avec les élus, les futurs, enfin les candidats en tout cas, viendra qui voudra. Mais en tout cas, on a à cœur de faire savoir ce qu'on fait. Et si d'aventure l'un ou l'autre arrive au pouvoir de la ville de Brest, sache qui on est et qu'est-ce qu'on fait.
D'accord. Bon, après, il y a aussi des déterminismes nationaux. Bon, là, c'est plus difficile à maîtriser, évidemment. Là, c'est
Inch'Allah, comme tu dis,
Inch'Allah.
mais on est très très inquiet parce qu'on voit bien que là, à l'heure actuelle, quand même, les crédits sont en baisse. Il y a une réelle voilà, la solidarité en France, elle est plus qu'elle était. On le voit. Enfin, je sais pas, il faut allumer son poste, regarder les décisions qui sont faites, les budgets qui sont proposés.
Oui, oui, oui.
Et on voit bien que. Alors, on a la chance, effectivement, peut-être la chance, en tout cas, on a des échos maintenant, puisque tu parlais de Boris, et que finalement, il est rentré en politique et il porte. Il est député maintenant dans une circonscription à Lyon et porte. Notre combat et notre engagement au plus haut niveau et milite pour une sécurité sociale de l'alimentation, pour justement une amélioration de l'aide de l'alimentation en tant que telle.
Oui, mais il n'est pas dans un parti majoritaire.
Il est effectivement dans le il est plutôt il est voilà chez les Verts, mais il y a quand même des choses qui passent et voilà il
D'accord.
Et au moins on en parle quoi. Au moins on parle de ces projets-là. Ils ont réussi à revenir a priori sur les crédits d'aide alimentaire et d'interpeller. S'ils n'avaient pas ouvert un petit peu haut leur bouche, ça passait à l'as et puis on allait plutôt.
Oui, non, mais il y a des gens qui sont là quand même.
Chose,
heureusement, ouais. On va finir comme d'habitude. Donc, au regard de tes débuts dans la vie. Amusé à 14 ans, là, où finalement le gars, il vous exploite, mais bon. Après les échalotes, et après la force de vente. Et après, tu te rapproches un peu de ce que tu aimes faire. Tu es animateur. Et le boulot, un peu, là, moi, ça m'épate, ça. Parce que tu es employé, et quand tu es employé, tu es aux ordres, et tu fais ce qu'on te dit, souvent, quand même. Et quelquefois, ce qu'on te dit n'est pas toujours. Et là, toi, ça marche bien entre tes missions générales et tes initiatives. Ça a l'air de bien marcher. Tu crées des projets. VRAC 29 est né finalement des habitants, évidemment, mais que tu étais là aussi. Et ça épousait totalement ta façon de concevoir ce métier et de t'y sentir efficace et libre. Libre, c'est important. Et là, tu te retrouves à faire des trucs que tu n'avais sans doute pas imaginé. Gestion d'équipe de bénévoles, c'est plus compliqué que les salariés parfois. Comptabilité, stratégie marketing, stratégie politique, logistique. La logistique, moi, ça m'impressionne toujours parce que si un camion de graines reste traîné quelque part, bon, ça marche moins bien, quoi. Donc, alors, deux questions. La première, c'est de quelle manière ce travail de VRAC 29 t'a transformé, s'il t'a transformé, moi, je le crois. Et la deuxième, c'est que dire à un jeune homme, une jeune femme, une jeune fille qui part sur le boulot, je sais pas trop, peut-être je vais faire un truc alimentaire ou etc etc. Enfin bon, le boulot c'est dur. Ou alors moi quand j'étais jeune, le monde du travail, ça me semblait planète Mars sur laquelle il fallait d'abord éviter les coups, quoi. Or c'est pas ça. Donc que dire un sur ta transformation par ce travail et deux à ces jeunes gens qui se lancerait dans la vie active.
Première question, qu'est-ce que ça a transformé? Déjà, c'est une grande fierté personnelle. Non, mais c'est vrai, enfin, faut le dire, moi, je suis fier d'avoir fait ça, parce que voilà, quand t'as réussi à créer un emploi solidaire comme ça, dans ce milieu-là, d'aller plus loin, de le faire avec des habitants, de partir d'un projet comme ça... de partir d'un projet qui était à la base sur un petit quartier, enfin un quartier en tout cas, et de le faire évoluer avec des gens et d'évoluer en plus avec ces personnes-là en même temps, et d'arriver à cette échelle et cette envergure d'action, c'est hyper valorisant personnellement. Je ne vais pas me cacher, on ne va pas dire le contraire. Donc pour moi, du coup, ça transforme, ça donne
ouais.
Ça donne confiance, dire bah ouais, c'est chouette, j'ai été capable de faire ça. À un moment, ça continuera ou ça ne continuera pas, mais en tout cas, à ce moment-là, t'es là aujourd'hui. Je suis fier, et puis je pense que voilà, mon entourage aussi, mes enfants, tu vois, c'est cool, parce que comme tu disais, il y avait un risque, c'était pas donné, fallait oser. J'aurais pu rester sur mon CDI tranquillement, effectivement, oui. Pendant 20 ans. Et j'ai pris ce risque, et que peut-être que dans 5 ans, ce risque-là sera toujours là, enfin, sera toujours pérenne ou pas. Et dans ce cas-là, on fera autre chose.
D'accord.
On n'est pas. Voilà, on fera autre chose. C'est pas...
Et tu as appris plein de choses aussi.
J'ai appris énormément de choses, bien évidemment. Technique, mais aussi sur soi-même, sur la relation avec les gens, sur la politique aussi. Donc c'est tout ça effectivement qui transforme, et puis finalement c'est la, voilà, l'évolution un petit peu de la personne par, là on parle de boulot, hein, par, par son emploi, son emploi.
Et que dire à des jeunes gens qui justement sont un peu effrayés, enfin moi c'était mon cas, mais il y en a plein d'autres. J'ai interviewé deux enfants, deux jeunes de 20 ans qui ne veulent pas travailler ici. Radio, je ne sais plus quel numéro c'est, mais c'est sur la plateforme, et je les comprenais parfaitement en plus même. Oui, que dire à des jeunes gens par rapport au boulot ? Parce que bon, faut y aller, pour quelles raisons et comment faire ?
Alors souvent, là, je vois, puis moi j'ai moi-même des enfants qui sont en âge maintenant de rentrer dans la vie active. Je vois beaucoup aussi de jeunes. Hein, et j'ai l'impression effectivement qu'il y a une envie d'immédiateté, en fait.
Oui, déjà, c'est vrai.
Tout de suite d'être en haut de l'affiche, quoi.
Ouais.
Tout de suite avoir des responsabilités, on a des diplômes de haut vol, et du coup on a une ambition de haut vol aussi. J'ai envie de dire faites avant, prouver par le faire plutôt que par le penser. On n'apprend pas à travailler dans les livres, ça ne s'apprend pas. On apprend à penser le travail, mais on n'apprend pas à travailler réellement et de faire avec les gens.
On va conclure là-dessus. Prochain numéro d'Un bon boulot, on rencontrera un photographe qui travaille avec des technologies du 19e siècle, mais pas pour être passéiste ou quoi, hein, pour fabriquer des choses du 21e siècle. Eh bien, on va conclure là-dessus. Eh bien, merci beaucoup, Fred. Merci à Vrac 29 aussi.
Merci Hervé, c'est toujours c'est un plaisir, on en parlait, c'est vraiment une belle expérience de se raconter et de faire un peu un point sur son parcours professionnel. Moi j'ai adoré l'exercice.
Super, mais écoute, ça me flatte aussi. Moi aussi je peux être flatté par les résultats positifs de mon travail, mon travail bénévole, hein, mais d'animateur radio. Ouais.